midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon week-end à tous. Mon invité aujourd'hui s'appelle Hadia de Charrière, bienvenue.
Merci.
Vous publiez Arabe aux éditions Jean-Claude Latête, c'est votre deuxième roman. En fait non, c'est votre troisième roman, mais vous l'avez choisi en deuxième. Pourquoi ? Pourquoi cette urgence ?
Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, ce roman est le troisième que j'ai écrit. J'étais en cours d'écriture du second, qui était quasiment terminé. Et j'avais un jour un rendez-vous avec mon éditrice à déjeuner pour terminer l'écriture du second, pour finaliser. Et quelques jours avant, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai écrit Arabe, et ce qui va devenir les 15 premières pages du roman, Arabe. Et je lui en parle comme ça, vite fait, je lui envoie. Et elle a passé l'intégralité du déjeuner à me parler de ces 15 pages. Et elle m'a regardé droit dans les yeux, elle me dit « Tu sais, ça c'est ton second roman ». Et je lui dis « Bah non, mon second roman il est fini, il est terminé ».
Je suis en vacances là.
Voilà. Elle me dit « Non, c'est aussi mon devoir d'éditrice de te guider dans ce sens-là. Un deuxième roman c'est compliqué, il faut savoir sortir du premier, sortir du style du premier ». Et elle me dit « Ça, c'est toi, c'est ton livre, tu le termines, c'est ton second roman ». Et je l'ai un peu accueilli comme un surmoi extrêmement fort, je n'avais plus le choix, je l'ai écouté. Et l'urgence finalement de publier ce roman-là en deuxième est née de l'enthousiasme non fin de mon éditrice face à ses 15 premières pages.
Alors c'est une fiction sur l'acceptation des origines, vous êtes d'accord avec ça ?
Je suis plutôt d'accord avec ça, oui.
Et l'importance d'accepter ses origines ?
Oui, l'importance même complètement fondamentale d'accepter ses origines. Dans un monde dans lequel on tend à faire croire aux gens que maintenir ses origines, si toutefois on habite dans un pays qui n'est pas son pays d'origine, était une nécessité à l'intégration. Alors moi-même, je suis d'origine syrienne, j'ai pas mal voyagé entre 0 et 6 ans, et puis à 6 ans, je me suis définitivement établie en France. Il s'est passé quelque chose d'assez étonnant d'un point de vue physique, organique, c'est que l'arabe que je parlais comme une enfant, je ne l'ai plus parlé. J'ai continué à le comprendre, mais je ne l'ai plus parlé. J'ai mis beaucoup de temps à formaliser les raisons de la disparition de cette langue dans ma bouche, et je suis assez convaincue du fait que la façon qu'ont les humains aujourd'hui de considérer la culture oblige les gens à gommer leurs traits d'origine, à gommer leurs traits culturels, que ce soit des traits physiques ou des traits audibles.
L'acculturation, là, pour le coup.
L'acculturation, exactement. Comme si l'acculturation était nécessaire, justement, à l'intégration. J'ai mis beaucoup d'années à comprendre qu'au contraire, il me semble que l'acceptation totale et pleine et complètement entière de sa culture d'origine permet d'aimer et d'accepter sa culture d'adoption.
Et au contraire, elle ne s'oppose pas.
Non seulement elle ne s'oppose pas, mais surtout elle ne se dilue pas. J'ai l'impression que les gens souvent ont peur que l'arrivée d'une culture nouvelle, d'une culture étrangère, pourrait avoir tendance à diluer la culture d'origine et d'accueil. Et je pense qu'on peut imaginer que les cultures sont comme des tubes de gouache. Ce qui fait peur aux gens, c'est qu'on prenne les couleurs entre elles, qu'on les mélange et qu'on obtienne une espèce de marron informe et que tout le monde se ressemble. Et malheureusement, c'est ce à quoi peut conduire l'acculturation. Alors qu'en revanche, on peut considérer que si chaque culture est une couleur extrêmement vibrante, on peut les mélanger entre elles et obtenir finalement une sorte de mélange de couleurs où chacune coexiste. Et le fait de les mettre côte à côte, non seulement elles sont présentes, mais en plus chaque couleur va permettre à sa couleur voisine, à sa couleur adjacente de s'exprimer d'autant plus. Un jaune ne sera jamais aussi beau que si on le met à côté d'un bleu, à côté d'un vert, à côté d'un rouge. Et moi, c'est ce en quoi je crois, c'est-à-dire la multiplicité des cultures et leur coexistence où chacune peut s'affirmer et elles ne s'opposent pas, au contraire, elles permettent en fait chacune à l'autre d'exister encore mieux et encore plus joliment.
Est-ce que vous avez eu à un moment donné l'impression de tourner justement le dos à votre culture d'origine ?
Oui, absolument. Alors,
c'est pour ça que vous dites c'est ce à quoi je crois, mais peut-être que vous ne l'avez pas toujours cru.
Je crois que disons qu'enfant et adolescente, je ne m'en rendais absolument pas compte. J'ai des souvenirs comme ça à l'école primaire, par exemple, où des cantinières ou des dames de service me disaient « Toi, tu ne peux pas être arabe avec tes yeux bleus », ce que je trouvais assez étrange comme phrase, surtout quand on sait finalement la prédominance des yeux clairs dans le monde arabe. au collège, on me disait, bah non, t'es pas arabe, tu viens pas du Maghreb. Et c'est vrai que la Syrie, finalement, était un pays relativement méconnu, en tout cas du plus grand nombre, avant qu'il y ait la guerre. Et finalement, je n'étais pas vraiment française, puisque je n'ai été naturalisée qu'à l'âge de 10 ans. Et je pense que la naturalisation, c'est un acte vraiment qui aussi permet de se sentir appartenir à un pays. Et en même temps, je n'étais pas vraiment arabe, parce qu'aux yeux des Français, je n'étais pas une arabe, puisque je n'étais pas marocaine, je n'étais pas algérienne, je n'étais pas tunisienne, et je n'appartenais pas aux pays dans lesquels...
On avait l'habitude de...
Oui, absolument, ou alors les petits pays exotiques dans lesquels on se rend en vacances pour aller toucher un petit peu du doigt le monde arabe. Et je n'appartenais pas non plus au plus grand courant migratoire arabe en France. Donc j'étais un peu entre deux eaux, et personnellement, je n'arrivais pas effectivement à complètement vivre ma culture. Et oui, je lui ai sans doute tourné le dos, pas par envie forcément, mais par une espèce de nécessité de ce que me dictaient les autres. Voilà, j'étais pas arabe, donc si j'étais pas arabe aux yeux des autres, pourquoi devais-je l'être envers moi-même?
Alors, comme vous êtes très transparente, vous racontez que vous êtes fait refaire le nez.
Oui.
Par exemple.
Oui.
Souvent, le nez, c'est l'héritage du père, de la grand-mère, enfin, en tout cas, c'est un héritage familial.
Oui, absolument.
Vous, qu'est-ce que vous vouliez gommer, en fait?
Je crois qu'au moment où je l'ai fait, je ne savais absolument pas ce que je voulais gommer. C'était sans doute une espèce d'accès de complexe adolescent qui a trouvé son paroxysme à l'âge de 20 ans. Et c'est devenu quelque chose de complètement nécessaire et indispensable. J'ai eu la chance de rencontrer un chirurgien qui ne m'a pas trop massacré.
Qui ne vous a pas fait le nez de Dorothée?
Non, voilà, ni de Dorothée, ni les petits nez des années 80 pincés. Je garde un nez présent et visible. Et ce que je trouve assez intéressant dans la rhinoplastie, c'est qu'on voit, par exemple, c'est une intervention qui est extrêmement courante au Liban, par exemple, dans des catégories sociales où les gens ont les moyens, les femmes se font refaire le nez.
Entre autres.
Mais c'est, je pense, la première opération. Ce qui est assez intriguant, c'est que quand j'ai écrit mon premier roman, Grande Section, j'ai un peu découvert aussi pourquoi je m'étais fait refaire le nez. À la fin du roman, dans une sorte de confession que j'adresse à mon père, que j'ai perdu à l'âge de 6 ans, je lui demande de ne pas être trop déçue parce qu'effectivement, je me suis fait refaire le nez et que je ne supportais plus en fait, de porter le nez de sa mère. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'assez fort dans le nez, dans effectivement la filiation qui est liée complètement au trait physique et notamment au nez. Ce qui est assez intriguant par ailleurs, c'est que quand on regarde les études purement médicales sur la beauté faciale, le tiers médian du visage n'importe pas du tout. C'est-à-dire que la rhinoplastie, c'est la première intervention chirurgicale qu'on fait sur le visage et c'est finalement celle qui va avoir le moins d'impact sur la beauté faciale. C'est assez intriguant. En revanche, le tiers inférieur du visage, lui, est extrêmement prégnant dans la beauté, dans l'identité faciale. Et ce que moi j'aurais pu imaginer être totalement inconsciemment un nez d'oriental, en réalité n'a pas gommé tant que ça mes traits orientaux, ou du moins pas autant que le tiers inférieur du visage. Et ça c'est assez intriguant.
Votre héroïne s'appelle Maya, elle a 28 ans. Un matin, Maya se réveille à côté de son mari avec lequel elle dort depuis 10 ans, hein, en prononçant ces mots « Sabah al-Khair » et subitement, lui, il la regarde. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit?
À ce moment-là, personne ne le sait. C'est-à-dire que Maya se réveille, effectivement, elle regarde son amoureux. Dans ma tête, elle le regarde longuement, elle est attendrie et elle a envie de lui dire bonjour parce qu'on ne se dit peut-être pas assez bonjour et effectivement, elle regarde et elle lui dit « Sabah al-Khair ». Elle ne se rend pas du tout compte que les mots qu'elle émet sont des mots arabes. Et effectivement, il en est surpris. Et elle se vexe du fait qu'il soit surpris parce qu'elle ne comprend pas pourquoi il serait surpris du fait qu'on se dise bonjour. Parce qu'après tout, voilà, on peut bien se dire bonjour même quand on se côtoie tous les jours. Et que s'est-il passé pendant la nuit? On a une journée avec Maya pour essayer de comprendre.
C'est un thriller. Il y a une pathologie qui pourrait y ressembler, c'est ce qu'on appelle le Foreign Accent Syndrome. C'est très rare, c'est des gens qui, suite à un accident de voiture par exemple, ou un choc sur la tête, se mettent à parler une langue dont ils n'ont jamais entendu parler, qu'ils ne connaissent même pas.
Alors en fait, cette pathologie-là, effectivement, qui est même décrite dans la littérature médicale, il y a plusieurs cas.
Le FAS, il y a une cinquantaine de cas à peu près, c'est très rare.
C'est très rare, mais ça existe. Et effectivement, vous avez dans le cerveau des zones qui sont des zones de la parole et des zones de la compréhension. Et sur des lésions de ces zones-là cérébrales, on va avoir parfois quelqu'un qui se réveille, qui parle finnois, alors qu'il n'a jamais parlé de finnois de sa vie. Or, il y a tout de même une condition, il faut que la langue ait été entendue au moins une fois, ou qu'il y ait eu quelque chose, en tout cas un rapport avec cette langue. On peut avoir totalement oublié le lien qu'on a eu avec cette langue. Hein. Ça peut être une expérience dans l'enfance, une nounou, une rencontre de vacances. Mais celui qui a un accident avec cette zone cérébrale lésée peut se réveiller en parlant une autre langue si et seulement si son histoire, quelque part, en fait, fait intervenir cette langue.
Mmh. Donc, oui, il y a forcément une première fois.
Il y a forcément une première fois.
Alors, elle, ça, quand elle, parce qu'elle investigue, elle cherche à comprendre.
Alors, au-delà de l'investigation, elle est surtout émerveillée. Et moi, j'ai adoré écrire ce personnage et j'ai été extrêmement heureuse qu'elle s'invite à moi de la sorte. C'est-à-dire qu'elle n'est que émerveillée. Cet émerveillement,
elle ne repousse pas. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle accueille avec beaucoup de plaisir.
Oui, et puis elle a, en fait, comme elle est totalement dans la sensorialité, et pas du tout dans le second round qui serait le round de la réflexion, de la peur. Elle s'émerveille et elle cherche au plus près de ses sensations en quoi cette nouvelle sensorialité, en quoi cette nouvelle langue va modifier son rapport à elle-même et son rapport aux autres. Et l'unité de temps du livre qui se déroule sur une journée m'a permis aussi d'éviter les écueils des interrogations, des peurs, des craintes, parce que je crois pas mal au fait qu'il y a toujours en premier, vous savez, on parle d'intuition, je pense que ce premier sentiment, celui qui est induit par les sens et qui n'est pas parasité, qui n'est pas phagocyté par les peurs, les craintes et l'intellect, peut créer quelque chose d'assez beau. Je pense qu'on a peur de l'autre, par exemple, ou on a peur de soi-même, si on commence à se poser trop de questions dans un contexte où on n'a pas toutes les références et toutes les tout ce qu'il faut pour réfléchir autour. Une réflexion, ça peut pas s'opérer. Soit le livre, de toute façon, se passait sur une journée, soit le livre faisait 500 pages et il y avait une vraie réflexion autour. Je voulais pas du tout rentrer dans cette difficulté que d'ailleurs j'aurais induite au personnage de se retrouver à devoir réfléchir sur un temps limité. Si elle devait se mettre à réfléchir, il aurait fallu que ça dure des années, parce que cette réflexion, effectivement, elle aurait été nécessaire. Il y aurait eu des moments de peur, des moments de doute, des moments de panique, mais ça devenait un ouvrage complètement différent. Et je voulais un ouvrage sur la sensorialité.
Mmh. Qu'est-ce que ça implique pour Maya, finalement, de parler arabe dans son monde, à elle, de française ?
Ça implique plusieurs choses, et ça, on va le découvrir un petit peu au fur et à mesure de sa journée, parce que finalement, la culture orientale, elle va induire des comportements qui sont très différents de la culture française. Maya, elle est née de parents français qui ont cette espèce de froideur apparente, par exemple, que peuvent avoir les parents français. Alors, je dis ça sans aucune...
Parce que vous définissiez ce que vous appelez les parents français. Hein.
Exactement. Alors, je vais le faire. Je me base beaucoup sur des sensations que j'ai eues moi-même. Par exemple, quand j'ai rencontré mon mari, j'avais 16 ans, on était jeunes, et j'ai rencontré assez vite ses parents. Et j'étais assez surprise parce qu'il me serrait la main, voire il me faisait la bise. Quand il venait chez moi, ma mère, elle le prenait dans les bras. Et puis je me souviens d'une phrase qu'il m'a dite quelques mois après qu'on se soit rencontrés. Il me dit, c'est marrant, ta mère arrête pas de te dire qu'elle t'aime, c'est quand même étrange. Et je lui dis, bah, considérant le fait qu'elle m'aime, non, ça n'a rien d'étrange, au contraire. Et je mettais en opposition la froideur apparente, parce que je ne crois pas du tout que les parents français n'aiment pas leurs enfants. Je pense qu'il y a une espèce de rétention dans les sentiments, on ne montre pas. Et la chaleur tout à fait visible des parents orientaux.
Son deuxième roman s'appelle Arab, Adia de Charrière. Et notre invité, l'éditeur, c'est Jean-Claude Lattès.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club qui a lu pour vous cette semaine Arab, c'est le deuxième roman de Adia de Charrière, qui est notre invité. Le roman est paru aux éditions Jean-Claude Lattès. C'est l'histoire de Maya, votre héroïne de 28 ans, qui est la fille de Edmond et de Michel. Mais moi, quand j'ai vu Edmond, Michel et Maya, je me suis quand même posé des questions. Et j'ai pas pensé à Maya l'abeille.
Oui, le prénom Maya, effectivement, qui a été utilisé dans le dessin animé Maya l'abeille, donc qui est un prénom, je pense, assez courant enfin courant non, parce que j'ai regardé un petit peu les probabilités, les pronostics. C'est pas un prénom qui est très donné, mais qui pour moi un prénom français est aussi un prénom très présent dans le monde oriental. Pour la petite histoire, j'avais très envie d'appeler ma fille Maya quand j'étais enceinte et j'avais peur qu'il y en ait trop. Alors du coup, je l'ai appelée Lina. Et manque de bol, l'année qui a suivi sa naissance, c'était le 10e prénom le plus donné en région parisienne.
Bon. Après, ça dépend comment vous l'écrivez.
Me voilà mal inspirée. Liana. Mais effectivement, Maya, et d'ailleurs, il y a une scène dans le livre qui parle un peu du moment où ils choisissent son prénom.
Le père.
Le père. Ouais. Et Maya, de toute façon, dès sa naissance, en ayant un prénom comme ça, elle était forcément différente. Je pense qu'on porte forcément la différence avec son prénom. Et bien que ses parents soient charnellement totalement français, son prénom déjà à la base ne l'était peut-être pas totalement.
C'est pour ça que je me suis posé la question. Vous dites que finalement le prénom est important, mais finalement en quoi est-ce que la langue qu'on parle tous les jours influe sur votre personnalité ?
Alors bizarrement, je ne suis pas complètement sûre que ce soit la langue qu'on parle, parce que moi-même, par exemple, je ne parle pas l'arabe, à mon grand désespoir. Je le comprends, mais je ne le parle pas. Et je ne pense pas que ça m'empêche d'être proche de mes racines et d'être proche de ma culture. En revanche, pour quelqu'un qui n'a aucune racine et aucune culture, je pense que l'apprentissage de la langue peut permettre une immersion dans la culture étrangère. C'est-à-dire que si on est originaire d'un pays quelconque, et qu'on a entendu la langue de ce pays dans son enfance, les phonèmes font partie de soi, le cerveau connaît cette langue, et d'un point de vue mais vraiment purement viscéral, la culture fait partie de nous. Quand en revanche, on est issu d'un pays et qu'on veut toucher de près la culture d'un autre pays, une autre culture, une culture étrangère, je pense qu'une des façons la plus intéressante de se glisser dans la peau de quelqu'un de cette autre culture, c'est d'en apprendre la langue. Et par exemple, moi je projette d'aller au Japon là cet été pour la première fois, et j'ai essayé d'apprendre le japonais. Bon, c'était pas simple, mais j'y ai passé pas mal de temps. J'ai commencé à apprendre un petit peu l'alphabet, à déchiffrer... Et être capable de prononcer une ou deux phrases en japonais, ça m'a permis de me sentir un tout petit peu plus proche. Alors peut-être que je fais complètement fausse route, mais j'ai le sentiment que parler une langue, si toutefois on n'est pas originaire du pays de cette langue, permet une première immersion assez forte parce qu'on ressent dans son corps, on ressent physiquement cette culture.
Et qu'est-ce qui fait que vous ne parlez pas l'arabe alors ?
Je n'en ai absolument strictement aucune idée si j'essaye de trouver une réponse comme ça du tac au tac. En revanche, je peux essayer de formaliser si je réfléchis un peu à mon histoire. Je pense que le fait d'arriver en France enfant et de ne pas avoir la nécessité de le parler, c'est une des premières choses. C'est, je pense, une pure économie d'énergie. Je n'ai pas besoin de le parler, donc je ne le parle pas. Et je pense qu'ensuite, ce qui est vraiment fondamentalement dans mon histoire à jouer, c'est que la perte de mon père a été pour moi une certaine scission avec l'Orient. Mon père n'était plus là, j'avais plus besoin de parler l'arabe. Pourtant, ma mère est syrienne aussi. Hein. Mais la perte du père a pas mal joué là-dedans. Et enfin, ce dont je parlais en début d'émission, je pense que la nécessité d'intégration et d'acculturation est passée par le fait de perdre la langue. Bien que je n'en ai jamais perdu la compréhension. Mais c'est moins visible de comprendre que parler.
Vous êtes un ovni pour les journalistes.
Ah bon ?
Oui. Des gens comme vous, ça n'existe pas.
Tant mieux.
C'est-à-dire qu'en fait, non seulement vous avez beaucoup de choses à dire, vous les dites bien, et vous êtes une super bonne cliente, en fait. C'est incroyable.
Tant mieux.
Ce qui est rare pour les gens qui écrivent, souvent, vous avez toujours quelque chose à dire.
Ah oui, j'ai tout le temps quelque chose à dire. Ça peut être problématique un peu.
Alors, vous avez toujours quelque chose à dire et toujours quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que finalement, vous pourriez... Mais franchement, moi j'ai lu des tas d'interviews de vous, je me suis dit, mais comment elle fait à chaque fois pour se renouveler ? C'est-à-dire que les gens qui sont en promotion, ils répètent un discours, alors que vous, on a l'impression qu'à chaque fois, vous sortez un nouveau discours. Que...
Moi, je vous parle avec toute ma spontanéité.
Vous êtes sans filtre, en fait. Vous dites tout.
J'ai pas de raison d'avoir de filtre, en fait, parce qu'à partir du moment où on est assez au clair avec ce qu'on ressent, je vois pas pourquoi on aurait des filtres. D'ailleurs, j'ai pas eu de filtre sur le titre de mon livre. Je me suis à aucun moment posé la question d'une problématique quelconque sur le titre du livre. Et le jour où j'ai fait la réunion en représentant, donc il y a cette fameuse réunion où on
présente votre livre.
Voilà, dans les librairies. D'un coup, je me dis, ah bah quand même, il va falloir que je leur explique que je présente un livre que j'ai appelé arabe. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais peut-être qu'ils vont prendre ça pour une provocation. Alors que c'est absolument pas une provocation. Moi, je l'ai appelé arabe comme j'aurais pu l'appeler finlandaise ou japonaise. Et je pense que quand on est très au clair avec ce qu'on ressent, on n'a pas besoin de filtre, finalement. On n'a pas peur de se dévoiler. Effectivement, je n'ai pas du tout peur de me dévoiler parce que d'une part, je pense que... j'ose espérer que ce que je raconte peut avoir un petit intérêt. Et d'autre part, je pense que ça peut aussi aider certaines personnes qui ont les choses en elles à les accepter et les assumer. J'ai des personnes que je ne connais pas sur Facebook, et notamment des femmes orientales qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit avoir des origines marocaines, algériennes, ne pas parler leur langue d'origine. Elles sont très heureuses de rencontrer ce personnage français qui se met comme ça, comme par magie, à parler l'arabe. Et que ça les a rapprochés un petit peu de leur culture. J'aime assez l'idée, finalement, qu'on parle de l'arabe, de la langue arabe, sans aucun tabou, parce que je ne vois absolument pas pourquoi il y aurait un tabou.
Alors, elle parle arabe, elle se sent arabe, et arabe, comment se sent-elle ?
En tout cas, pendant cette première journée, arabe, elle se sent plutôt très bien. Elle est, Maya, c'est un personnage qui est très solaire, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai adoré l'écrire. Alors ça me fait rire parce que parfois les gens me disent « mais Maya, c'est vous ?» J'adorerais que Maya soit moi, mais je pense que je suis beaucoup plus torturée qu'elle. Elle a cette chance d'accueillir cette nouvelle langue avec une espèce de, presque de nonchalance finalement, là, une espèce de bonheur nonchalant qui est assez génial. Et puis... Elle se sent bien parce que se sentir autre ne lui fait pas peur. Mais pour ne pas avoir peur de se sentir autre, je pense qu'il faut être déjà extrêmement à l'aise avec ce qu'on est au départ. Et je pense que c'est ça, en fait, la force de Maya. C'est quelqu'un qui est extrêmement à l'aise avec ce qu'elle est. Elle a des parents pharmaciens qui l'ont rêvé pharmacien. Ça ne l'intéressait pas du tout. Elle est partie être costumière de cinéma, de théâtre. Elle n'a écouté qu'elle-même et elle n'a écouté que ce qu'elle aime
faire. C'est pas courant comme métier, non. Elle est costumière de théâtre et de cinéma, donc elle transforme les gens avec un sens du détail quand même très exacerbé.
Oui.
C'est très observatrice.
Maya, elle aime regarder les autres.
Elle aime dissimuler les autres, parce que c'est du camouflage.
Alors c'est marrant, j'aurais pas dit dissimuler, je pense qu'elle aime aider les autres à trouver la possibilité d'interpréter des personnages et de se mettre complètement dans leur peau. Au-delà de la dissimulation, moi je pense qu'au contraire, et d'ailleurs Maya, quand elle devient arabe, elle ne dissimule pas sa culture française. Donc de la même façon, quand elle va habiller les personnages, elle ne cherche pas à dissimuler l'acteur derrière le personnage. Elle veut permettre au comédien, elle veut permettre à l'acteur d'avoir tout ce qui est en son pouvoir pour se mettre dans la peau. De la même façon que la langue peut permettre de se mettre dans la peau d'une culture, le costume au théâtre, il peut permettre de se mettre dans la peau d'un personnage.
Et il faut qu'il soit juste, ce costume, pas exagéré, d'où le sens du détail. Mais c'est quelqu'un qui aime tous ses métiers finalement, parce que le cinéma, on pense toujours à la lumière, mais elle, contrairement à ça, dans le cinéma, ce qu'elle aime, c'est les métiers de l'ombre.
Oui, elle aime tous ces métiers de l'ombre qu'on connaît peu. Alors elle le dit, hein, comme ça, les métiers qui défilent à la fin d'un film, ceux que personne ne connaît, les noms qu'on ne retient pas, les Césars dont on se souvient à peine. Moi, je suis toujours très amusée par la cérémonie des Césars. On attend avec excitation le meilleur espoir féminin, le meilleur espoir masculin. Et puis derrière, malheureusement, le décor, la lumière, les costumes...
Tout ce qui fait qu'un film existe, finalement.
Oui, puis qu'un film, en plus, existe avec une certaine vérité. Parce que ce qui est compliqué, par exemple, avec le costume, mais je pense que c'est exactement pareil avec la langue, c'est qu'on peut se retrouver dans quelque chose d'extrêmement artificiel. Et elle, ce qu'elle veut, c'est être justement dans le vrai. Maya, elle est dans le vrai tout le temps. Et quand elle parle l'arabe, elle est dans le vrai aussi parce qu'elle veut aller vers la culture et elle ne se laisse pas polluer par des discours ambiants, par la géopolitique. Maya, elle est juste dans le vrai, dans ce qu'il y a dans le bide.
On va marquer une première pause musicale dans cette émission. On écoute Douce France du groupe Carte de Séjour 1986. Quelle puissance se dégage-t-elle de cette chanson et de cette version pour vous ?
Alors moi, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, cette chanson, quand je l'ai entendue la première fois, que je regardais le clip, je devais avoir, je pense, 6-7 ans. J'ai été complètement ébahie par le fait qu'une chanson de traînée soit interprétée de la sorte par un groupe qui la mettait en rail, et surtout par un chanteur que j'ai découvert après, Rachid Taha, qui avait cette espèce de mérite absolument incroyable et génial de ne pas lisser sa langue. Il avait cette voix très gutturale, il cachait pas, il cachait rien. Et je trouvais qu'il était dans le vrai. Et comme Maya, je trouve qu'il est dans le vrai. Et c'est pour moi, c'est ça la force de cette chanson. C'est de réussir à lier la France et ici notamment l'Algérie, mais je pense le monde arabe en général, et sans chercher à faire semblant et sans aucun complexe. Douce France.
dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur, j'ai connu des paysages et des soleils merveilleux. Au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et on vous propose de lire aujourd'hui Arabe, c'est le deuxième roman de Hadia de Charrière qui est notre invité aujourd'hui. L'éditeur, c'est Jean-Claude Lattès, à travers l'histoire de Maya qui un matin se réveille en parlant une autre langue qu'elle ne connaît pas a priori, mais qu'elle parle très bien. 24 heures de cette vie de Maya où elle découvre ce que ça fait de parler arabe, finalement. Elle met une enquête quand même. Hein, elle oui. demande d'où ça pourrait lui venir et elle a quand même une quête d'origine.
Ce qui est assez étrange, c'est que finalement, sa quête, elle ne la formalise pas du tout au départ. Maya va passer une journée qui pourrait être une journée complètement ordinaire. Elle se rend dans des lieux connus qui parfois la mènent vers des lieux inconnus. Et chacun de ces lieux, elle va les redécouvrir dans cette nouvelle langue et complètement immergée par cette nouvelle culture. Mmh. Cette journée dans Paris avec cette nouvelle langue, finalement, pour Maya, c'est une sorte de petit voyage initiatique et ça va lui permettre une construction personnelle, une réflexion personnelle à travers une culture qui n'est pas la sienne. Pour autant, Arabe n'est pas un roman d'apprentissage parce qu'on n'assiste pas du tout finalement à sa révélation. On a une sorte, c'est une introduction à l'apprentissage.
Elle gratte quand même. Hein,
elle gratte un peu, elle gratte pas mal. Et surtout, il y a pas mal de scènes en fait, qui me tiennent pas mal à cœur dans cet ouvrage que j'ai été moi-même surprise d'écrire.
Alors, laquelle par exemple?
Quand elle se retrouve à Pigalle, vraiment par hasard.
Parce qu'elle va dans un sex shop.
Elle va dans un sex shop.
Elle rentre dedans.
Elle rentre dedans, ce qui ne lui était jamais arrivé. Et finalement, elle se met à se poser un certain nombre de questions sur la féminité dans un endroit complètement incongru qui a priori est plutôt...
au milieu des boules de geisha.
Ouais, et puis plutôt d'une vulgarité assez importante. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas tellement le lieu pour opérer une espèce de réflexion philosophique sur la féminité. Et puis, elle est complètement sidérée quand elle découvre le nombre d'objets de plaisir qui, à destination féminine, qui ne sont pas des objets pénétrants. Et là, elle se pose une vraie question, toute une réflexion sur l'excision. Mmh. Et si elle n'avait pas été complètement envahie par cette langue, elle n'aurait pas eu finalement le réflexe de penser à l'excision dans le sex shop. Elle serait peut-être rentrée dans le sex shop, elle se serait marrée comme une adolescente et puis elle serait ressortie. Ce que cette langue lui a apporté, c'est la possibilité d'une certaine gravité dans une situation légère et incongrue.
Et au marché Saint-Pierre, alors ?
Alors, au marché Saint-Pierre...
En quoi est-ce que c'est un lieu inspirant ?
Le marché Saint-Pierre, pour elle, c'est un peu le lieu, d'ailleurs, qui lui donnait envie de venir à Paris. Elle, canoise, costumière, elle avait un petit peu cette espèce de besoin d'étoffe par milliers. C'est presque un besoin d'oralité. Elle voulait du nombre, elle voulait du tissu.
C'est le paradis. Hein,
c'est le paradis.
C'est un vrai paradis, le marché Saint-Pierre.
C'est un vrai paradis. Et puis, elle aime s'y rendre, surtout quand elle est hors tournage, parce que ça lui permet de errer. Et il n'y a rien de plus beau que l'errance, à mon sens, c'est-à-dire se rendre dans des lieux sans avoir d'objectif particulier. Et à ce moment-là, quand elle s'y balade, effectivement, elle n'a pas d'objectif particulier parce qu'elle n'est pas du tout en tournage. Et elle est complètement happée par un tissu, un coton blanc, lourd. Et elle n'a qu'une envie, c'est fabriquer une abaya. Elle ne sait absolument pas pourquoi, mais elle le sent viscéralement. Elle a envie de se rapprocher finalement des différentes histoires culturelles que lui raconte cette langue qu'elle parle désormais.
Elle fait partie des gens, donc on l'a dit tout à l'heure, elle est costumière pour le cinéma, qui pensent que l'habit fait le moine. Qu'est-ce qui, selon vous, la façon dont les gens sont habillés, nous disent de leur vie ?
Je pense que ça dit un certain nombre de choses, dans le sens où je pense qu'on s'impose un habit pour, disons, en fonction de la société, montrer quelque chose. L'habit, il permet de montrer quelque chose. Je pense que les gens ne le formalisent pas forcément au moment où ils choisissent leurs vêtements, au moment où ils s'habillent, mais c'est le premier lien qu'on a avec une personne en face de soi, c'est ce à quoi on ressemble. Et il se trouve qu'on vit dans une société dans laquelle nous sommes vêtus, donc le vêtement a une importance fondamentale. Je pense que le vêtement dit tout haut ce que l'inconscient pense de soi tout bas. Quelqu'un qui va avoir un vêtement très ample, qui va se cacher, ne va pas donner le sentiment de quelqu'un de très sûr de lui. A contrario, quelqu'un qui va avoir un vêtement trop près du corps, trop visible, qui met trop en avant son corps, on va peut-être se dire de cette personne qu'on est dans quelque chose qui est plus de l'ordre, disons, de la fierté de son corps, du narcissisme. Donc je pense que oui, le vêtement peut avoir un message assez important. Et je pense comme Maya que, bien que ce ne soit pas forcément très glorieux, oui, l'habit fait le moine, en tout cas dans l'œil de l'autre.
Alors dans votre livre, vous donnez un extrait d'un poème que je ne connaissais pas, de Jacques Prévert, qui s'appelle « Étrange étranger », donc écrit en 51, qui est paru en 1955. Alors vous expliquez pourquoi vous n'en donnez qu'un extrait dans votre livre pour des questions de
droit.
De droit. Mmh. Vous pouvez nous lire le début de ce poème ?
Oui. Alors bizarrement, ce n'est pas ces poèmes-là de Prévert qu'on apprend à l'école, mais...
Mais moi, je vous dis, franchement, je l'ai découvert.
Mais belle découverte. Hein.
Ouais, magnifique.
Kabyle de la chapelle et des quais de Javel, homme de pays loin, cobaye des colonies, doux petit musicien, soleil adolescent de la porte d'Italie, boumian de la porte de Saint-Ouen, apatride d'Aubervilliers, brûleur des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied, au beau milieu des rues, tunisien de Grenelle, embauché débauché, manœuvre désœuvré, polaque du marais du temple des Rosiers, cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares ou du Cap Finistère, rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre, pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres.
C'est un extrait. C'est un Paris qui n'existe plus. Hein. C'est une promenade dans ce Paris où il y avait encore des quartiers avec les gens par toutes ces nationalités qu'on voit. Il y a aussi l'étranger de Camus, hein, puisqu'à un moment donné, elle se retrouve non pas à la place de Meursault, mais à la place de l'Arabe, finalement, qui est tué par Meursault.
Oui, elle a, d'un coup, elle devient un autre. C'est-à-dire que Mayat, sans doute, comme beaucoup d'adolescents français, a étudié l'étranger. Et sans doute, comme beaucoup d'adolescents français, a trouvé ce plaidoyer contre la peine de mort absolument extraordinaire et très progressiste. Et évidemment, elle était dans la peau de Meursault, mais dans la peau de Meursault dans la seconde partie du livre. Elle était dans la peau de Meursault en plein procès. Et puis d'un coup, elle n'est plus Meursault, elle est l'Arabe qui est au sol. Elle est l'Arabe qui se fait assassiner parce que Meursault a du soleil dans les yeux et on ne sait pas trop ce qu'il fait, et lui-même ne sait pas trop ce qu'il fait. Il tire une balle. Sauf qu'après cette balle, il y en a quatre autres. Et ces quatre autres balles, elles veulent dire beaucoup de qui est l'arabe qui est au sol et qui est la personne qui tire les balles. Et je pense que Maya, à ce moment-là, elle ressent extrêmement fort ces quatre balles. Et l'arabe de l'étranger se met à exister et à résonner très fort en elle.
Vous êtes dentiste dans la vie.
Oui, ça arrive.
Vous avez un vrai métier, en fait.
J'ai un vrai métier.
Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, vous avez deux vrais métiers ?
Disons que j'ai un métier qui me permet de vivre dans les contraintes que la société de consommation nous dicte.
Donc, c'est celui qui paye les factures ?
Disons qu'au-delà des factures, c'est celui qui... j'aime mon métier, hein, par ailleurs. Moi, j'ai la chance de pouvoir donner le sourire aux gens, ce qui est quand même assez incroyable. Disons que c'est celui qui me permet, par exemple, de me payer ce que l'écrivain en moi aime. Des objets d'art, des objets d'ameublement. C'est-à-dire que je sens que mes goûts, je sens que mes envies ne sont pas celles de mes confrères chirurgiens-dentistes. Je suis assez différente de tous les dentistes que je rencontre. Mais en revanche, je ne peux pas nier le fait qu'effectivement, ça m'a aidé à avoir un certain niveau de vie, à ne pas avoir à me poser de questions d'ordre financier au moment où j'ai écrit.
C'est un confort que finalement l'écriture ne pourrait pas vous donner tout de suite.
Alors non seulement c'est un confort que l'écriture ne pourrait pas m'apporter tout de suite, mais surtout c'est un confort extrême dans le fait que l'écriture ne devient qu'une urgence personnelle. C'est jamais une urgence financière. Et écrire en étant complètement décorrélé de l'idée que le livre, dans un second temps, doit exister, se vendre et rapporter de l'argent... Je pense que ça donne une liberté énorme d'écriture parce que l'écriture n'est pas nécessaire à la survie, ou en tout cas à la survie purement matérielle. C'est un autre type de survie. C'est une survie mentale, c'est une survie morale.
On termine cette émission en écoutant une chanson de Michael Jackson, c'est Thriller. Vous aimez beaucoup la nostalgie, vous vous souvenez du jour où vous avez découvert ce clip pour la première fois ?
Oui, je m'en souviens très bien, j'en parle dans Grande Section, mon premier roman. J'habite à Damas, on est en 1984, et pendant des années, j'ai pensé que la télévision syrienne diffusait le clip de Michael Jackson, et j'ai découvert beaucoup plus tard que nous avions toute une collection de VHS qui nous permettait de vivre ces moments de douce poésie musicale.
Votre livre s'appelle « Arabe, Adia de Charrière » chez Jean-Claude Attès. Merci d'avoir été l'invité du Book Club aujourd'hui.
Merci à vous.
Of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air,
the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.